Bienvenue sur la radio des visionnaires, les podcasts de ceux qui veulent créer le futur et oser voir au-delà de l'effondrement. Je partage avec vous des hypothèses de futur possibles. J'y mêle art, science et philosophie. J'y pose mes idées et mes émotions pour imaginer l'évolution de l'humanité dans ce qu'elle a de meilleur. Des opinions pour apprivoiser l'impensable, bousculer les croyances, sortir du cadre pour ne plus avoir à subir l'avenir comme si c'était une fatalité et vivre différemment. S'occuper du futur est juste une autre façon d'améliorer son présent. Je suis Alma Khan, mes podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Regarde la nature, c'est là qu'est ton futur, écrivait Léonard de Vinci. Mais à observer notre époque, et ce depuis le début du 19e siècle, il semblerait que nous n'ayons pas tout à fait compris la sagesse ni les applications de ce message. Fort heureusement, les lignes semblent bouger vers l'évolution peut-être. Alors pourquoi et comment pourrions-nous nous inspirer de la nature pour créer le futur? Un futur empreint de vie, cela va de soi, un futur viable, équitable et surtout vivable. La réponse semble résider dans le biomimétisme, un concept qui, de prime abord, pourrait nous sembler millénaire et qui pourtant émerge seulement en ce début du XXIe siècle. C'est ce dont je vais vous parler dans ce podcast, à ma façon. À la façon d'une artiste passionnée par la science qui a pour ambition de rassembler ce qui s'avère a priori résolument opposé. Rassembler, réunir, réconcilier, il semble que ce soit le grand défi de notre XXIe siècle. Et ce défi est d'autant plus grand dès lors que l'on parle de la nature. C'est vrai, ne voyons la nature que sous deux angles. Celui du décor de carte postale immuable ou celui de l'exploitation de ses ressources. Bref, autant dire que nous sommes à l'an zéro et même moins un de la compréhension de celle-ci. Pourtant, notre lien à la nature est ancestral et profond. Peut-être avons-nous oublié qu'à l'instar des êtres humains, elle était vivante, vibrante même. Nous avons pris pour habitude, aujourd'hui de manière encore plus criante et violente qu'hier, de tout séparer. On a coutume d'opposer nature et science, ou encore nature et économie, comme on oppose les hommes et les modèles d'évolution dans des guerres stériles. Cupidité oblige. Dans l'esprit du plus grand nombre, être proche de la nature, c'est forcément régresser, revenir en arrière, voire, sous son meilleur jour, y passer des moments déconnectés ou reconnectés, tout dépend de son niveau de conscience. À l'inverse, dans l'esprit commun, la science, elle, c'est forcément l'évolution, le progrès, l'avenir. La science est au service de l'économie, elle, sa mission est salvatrice. Comme si la science détenait le pouvoir de solutionner tous nos maux sans qu'on ait besoin de se regarder dans un miroir. Comme si la science détenait un super pouvoir que la nature n'aurait pas, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Et lorsque de surcroît on mélange nature et climat, les crispations et les oppositions sont à leur maximum, particulièrement entre scientifiques, économistes et politiciens, creusant des fossés de plus en plus grands, au lieu d'ériger des ponts. Pourtant, ces ponts existent. Il en existe un particulièrement qui pourrait bien être la voie royale de réconciliation entre la science et la nature, entre les chercheurs, les ingénieurs, l'industrie et les défenseurs de la biodiversité et de l'humanité, entre la nature et le futur. Ce pont, ce pourrait être le biomimétisme. Mais qu'est-ce que véritablement le biomimétisme? En quoi est-ce une solution d'avenir compatible avec les enjeux du futur? Quels sont ses principes, ses applications, ses défis et ses dérives possibles? Oui, ses dérives, car toute démarche, même a priori salutaire, peut engendrer le pire des fléaux si l'humain en commande est déviant, obtus, déconnecté du vivant, de sa compréhension et de sa sauvegarde. Le vivant, la vie. C'est justement ce que désigne la racine grecque « bio » de biomimétisme. « Bio », cela signifie « la vie », et « mimétisme », signifie imiter, copier. Autrement dit, le biomimétisme, c'est imiter, s'inspirer du vivant. Mais pourquoi faire ? Tous les acteurs du biomimétisme vous répondront quasiment d'une seule voix pour innover, s'inspirer de la nature pour innover. À cela, j'ai envie de répondre, innover dans quel but ? On vous dira, eh bien, des innovations durables, bien sûr, pour s'inscrire dans la transition écologique. Voilà des mots magiques, innovation, durable, transition écologique. De quoi faire frétiller politiques, industriels et chercheurs en quête de Saint Graal. Mais nous aurions bien tort de nous arrêter à cet écran de fumée. C'est vrai, c'est quoi le plan du biomimétisme quand on sait combien les plans de feu le développement durable ou soutenable ont été déjoués, édulcorés, tronqués? Le vernis change, mais le modèle reste le même. Dans le même registre, on parlera de bio-inspiration, de bio-ionique, de biomimétique, qui sont autant de termes qui renvoient à la même démarche d'imitation du vivant. Mais le terme de biomimétisme semble se singulariser par l'importance qu'il accorde à la dimension de durabilité, de respect du vivant. Alors, tel un Don Quichotte contre les moulins à vent, je crois profondément au biomimétisme qui, s'il tombe entre de bonnes mains, peut changer vraiment la donne des futurs possibles. Voyons cela dans le détail. Si le biomimétisme est perçu aujourd'hui comme un concept novateur ou une approche scientifique révolutionnaire, son principe est en réalité ancestral. Il existe depuis toujours. Et depuis tout temps, les humains observent la nature pour s'en inspirer. Néanmoins, il est vrai que depuis les derniers siècles, nous avons été de très mauvais élèves, alors on redécouvre un peu la roue. John George Wood, grand observateur de la nature, écrivain anglais sur l'histoire naturelle et naturaliste, écrivait ceci en 1885. De même que toutes les inventions humaines que nous connaissons existaient déjà dans la nature, on découvrira certainement qu'elles recèlent les prototypes de toutes les inventions à venir. Les grands inventeurs de demain seront, par conséquent, ceux qui s'inspirent de la nature dans les arts, les sciences ou la mécanique, au lieu de s'attribuer le mérite d'une invention déjà présente dans la nature depuis des siècles. 200 ans plus tard, à la fin des années 1990, c'est Janine Benyus, scientifique américaine, qui a rendu cette théorie populaire à travers le monde. Elle a écrit plusieurs livres sur le biomimétisme, dont « Le guide du biomimétisme » en 1998. Et dans ses livres et conférences, elle nous fait découvrir des applications efficaces et respectueuses de l'environnement, développées par des chercheurs pionniers dans les domaines de l'agriculture, des matériaux, de l'informatique, de l'industrie, etc. Elle nous révèle surtout la merveilleuse richesse de la nature et nous incite à mieux l'observer pour l'imiter. Elle y développe la théorie selon laquelle les êtres humains devraient répliquer le génie de la nature dans la conception des objets et des systèmes, et ce, de façon pérenne. Car, nous dit-elle, nous vivons dans un univers extraordinairement compétent, nous faisons partie d'une planète brillante et nous sommes entourés en permanence de génie. La nature, la vie sur cette Terre, c'est 3 milliards 800 millions d'années de technologie adaptative. C'est l'évolution du vivant. Oui, depuis 3,8 milliards d'années, le vivant sélectionne les solutions les plus efficaces, les plus économes en énergie et en ressources pour s'adapter. Le tout avec zéro déchet et pollution, car dans la nature, tout a une fonction. Alors avec le biomimétisme, la nature devient comme un grand laboratoire qui détiendrait la solution à tous nos problèmes. Enfin une partie. La nature devient une source d'inspiration pour les scientifiques en tout genre. En tout cas, majoritairement, ceux qui œuvrent dans les nanotechnologies et les biotechnologies. Par ce biais, ils entendent révolutionner les domaines de la santé, de l'énergie, de la communication et de la gestion de l'information, des transports, de l'agriculture, de l'urbanisation, de l'habitation, du design et bien d'autres champs d'application. Le champ du biomimétisme est tentaculaire. Et je reviendrai aux exemples d'application tout à l'heure. À Alors oui, la nature, ce génie, cette tasse de la résilience. Maintenant que l'effondrement est dans toutes les bouches et que l'espèce humaine est menacée d'extinction, ça fait rêver. La nature pense développement, abondance, prospérité, quand nous, nous nous aveuglons à coups de croissance, de déficit, de pénurie et d'austérité. La nature a su s'adapter à tout avec génie et autonomie, quand nous, nous ne savons même plus survivre sans voiture ni supermarché. Et le pire de tout, nous avons fait jusqu'ici en sorte que notre modèle économique et son idée obsolète de croissance avancent si et seulement si la nature recule. Face à une incroyable fertilité, nous n'avons su proposer qu'un excès de testostérone en mal de conquête sans doute, doublé d'une cécité intellectuelle. Encore une fois, nous avons séparé les choses pour les opposer dans une lutte fratricide au lieu de trouver des voies de développement commun et bénéfique pour le vivant. Dans son entièreté. Qui sommes-nous pour voler la nature, la détruire et ignorer son génie millénaire du haut de nos 4 petits millions d'années? Ce constat déplorable de notre rapport d'ignorant à la nature devrait suffire à remettre l'espèce humaine à sa place, ni au-dessus, ni même au centre. D'ailleurs, l'astronomie a montré que la Terre n'est pas au centre de l'univers, ni même le Soleil, ni même la Voie lactée. Et bien de même, l'humain n'est pas au centre de la vie. D'ailleurs, il ne peut pas se passer du reste de la biosphère. Il fait partie d'un tout dont il est, au mieux, le gardien. S'il peut être explicable que les humains se soient crus supérieurs, c'est néanmoins une erreur dramatique, qui a mené et mène encore de nos jours à des conséquences désastreuses. La seule chose que les hommes auraient dû extraire de la Terre, c'est le savoir et la connaissance pour évoluer avec elle, en symbiose et non pas contre ou à son détriment. Or, nous avons cloisonné le vivant dont nous sommes au lieu de nous penser en tant qu'un seul et même écosystème. Alors, s'il y a un enjeu et un défi majeur que le biomimétisme devra relever avant toute chose, c'est probablement celui de l'enjeu culturel. C'est-à-dire faire en sorte que chaque scientifique travaillant dans le champ du biomimétisme considère la nature non pas comme un objet d'apprentissage en vue de sa simple réplication, mais comme un maître avec tout le respect qu'il lui doit. Maintenant que le biomimétisme est désormais dans la boîte à outils de tous les scientifiques et ingénieurs, on peut se demander si copier ne risque pas aussi de les amener à piller la nature, la privatiser, la dénaturer, voire la détruire davantage. Par exemple, on s'est inspiré de la fleur de bardane, le fameux chardon, pour créer le velcro. Mais ce même velcro est en plastique, ce polluant redoutable pour le vivant, le tout avec un procédé de fabrication bien loin de la durabilité. Or, la nature ne ferait jamais ça. Nous n'avons fait ici qu'imiter la nature de façon artificielle, incomplète et irresponsable, sans prise en compte de l'écosystème tout entier, de sa symbiose et sa circularité. La nature, elle, sait prendre en compte le produit, le processus et le système de manière intégrée. C'est de cela dont nous devrons nous inspirer prioritairement. S'inspirer de la nature comme d'une chaîne de valeur apportant de la valeur ajoutée à tous les acteurs. Tout ingénieur utilisant l'outil du biomimétisme devrait se poser la question de sa durabilité au sens du vivant tout entier. À quoi ça sert de mimer les haies de ronces pour créer du fil barbelé? Pour créer une clôture efficace à moindre coût? Oui, mais de quel coût on parle? Quel est le coût pour l'environnement, sans parler du coût humain en tant que symbolique de ce genre de clôture? À quoi ça sert de s'inspirer des mandibules de la larve de l'Ergates picalitus, à mes souhaits, un redoutable parasite xylophage, pour innover dans des scies pouvant couper plus d'arbres, plus gros, plus vite? C'est une aberration. Le biologiste et entomologiste américain Edward Wilson dit ceci. Brûler la forêt amazonienne pour faire de la croissance économique, c'est comme brûler les œuvres majeures de la Renaissance pour se faire cuire un steak. Et il a raison. C'est dire le nombre illimité de steaks que nous faisons cuire aujourd'hui, au nom d'une croissance économique tout aussi ignorante que meurtrière. En revanche, le biomimétisme prend tout son sens lorsque des entreprises comme Ecovative entreprise américaine, réalise des biomatériaux à partir de déchets agricoles et de champignons plutôt qu'à partir de polystyrène et autres polymères. Il prend tout son sens aussi avec l'entreprise française Emarina, qui part de l'observation d'un ver de sable capable de survivre lorsque la mer se retire, a découvert le formidable potentiel de leur hémoglobine et leur capacité de transport d'oxygène universel, ce qui a permis de faire d'incroyables avancées dans la préservation des organes en attente de greffe, ainsi que de nombreuses autres applications innovantes liées à la santé. Les champs d'application du biomimétisme sont infinis à condition de coexister dans ce vivant. Parfois, je me dis que la plus grande utopie que l'humanité puisse entretenir, c'est de croire qu'il n'existe rien qui vaille la peine en dehors de la matière ni en dehors d'elle-même. Le génie de la nature, jusqu'ici invisible, est pourtant sous nos yeux en permanence, sans que notre cerveau puisse en voir la globalité. Il fait du petit bois, de cette nature subtile qu'il rabaisse à de la matière première dans son vertige égotique d'humain néophyte. Comme le dit très bien Idriss Aberkane dans son livre « L'âge de la connaissance », s'il y a un dénominateur commun à tous nos problèmes, c'est bien le manque de connaissance. Et plus justement, combien de connaissances a-t-on mis dans notre relation à la nature ? La nature est sans nul doute le plus gros gisement de connaissances inexploitées que nous ayons, et cette connaissance vaut infiniment plus cher que n'importe quel filon d'or ou de pétrole. Alors à mon sens, et avant d'exploiter le filon, le premier devoir du biomimétisme, c'est de faire en sorte justement que la nature ne soit plus qu'une matière première ou une simple boîte à idées à dévaliser, et de pousser jusqu'au bout le processus. Ce qui revient en premier lieu à révolutionner la pensée scientifique. Si la pensée reste cloisonnée, alors le biomimétisme est nul et non avenu avant d'avoir véritablement existé. La science, sous prétexte d'innovation, ne peut s'auto-affranchir de responsabilité et de conscience. Nous n'en avons plus les moyens. De manière globale, il y a toujours eu interaction entre l'art, la science ou encore la philosophie, et la pensée ne saurait être capturée par une seule profession, fût-elle scientifique. Lorsqu'un spécialiste, et vous savez que j'en ai soupé du spécialiste, car avant de choisir pleinement ma vie d'artiste, je travaillais dans le secteur de l'ingénierie conseil. Bref, lorsqu'un spécialiste s'exprime au nom d'une spécialité en restreignant ouvertement son champ de vision à ce que permettent de voir les instruments auxquels il est accoutumé, en disant par exemple « je parle en tant que spécialiste de telle ou telle discipline », il décrit en réalité d'où il parle. Mais il néglige dans le même temps toutes les autres approches, ce qui signifie ni plus ni moins qu'il renonce à penser. Rester dans sa spécialité, c'est réduire et in fine ne pas penser, car la pensée n'admet pas les cloisonnements ni les enfermements. Son mouvement est le doute universel et l'humilité. Alors, vous me direz peut-être comme l'adage que de toute façon la science ne pense pas, puisque de fait, le sujet de la science se tient en dehors de son objet d'étude et donc ne se saisit pas lui-même dans sa réflexion. Eh bien, c'est peut-être là qu'est l'erreur. Se croire en dehors ou au-dessus, alors que l'on est partie prenante et intégrante d'un écosystème inextricable. Tout cela au nom de la rationalité, de la spécialité. Eh bien, voyez où cela nous mène. À un écocide adoubé par une économie de spécialistes aveugles et sourds. À une société où la science règne en maître égoïste et égocentré, dépourvu de la moindre empathie. Et pour transformer n'importe quel individu en bourreau, la méthodologie est simple. Privez-le d'empathie. De nombreuses études et enquêtes, dont certaines même ont été télévisées, expliquent comment transformer un individu normal, voire même bienveillant, en bourreau. Le procédé est assez simple, et il fonctionne dans des populations de cultures très différentes. Il s'agit simplement de bloquer l'empathie du sujet en lui persuadant qu'il est d'une essence supérieure. Cela se fait au moyen de quelques exercices humiliants destinés à le convaincre qu'il a la force de surmonter sa sensibilité, autrement dit d'imposer le silence à son empathie naturelle. Ah, l'enivrement de se sentir supérieur aux autres, alors que c'est l'humilité qui devrait être le moteur au regard de la nature et des sciences de la vie. L'histoire ne manque pourtant pas d'exemples de peuples qui se sont laissés persuader qu'ils étaient supérieurs. On en a vu les conséquences, fort est à parier que nous en verrons d'autres à venir. Il semble que l'espèce humaine considère comme évident qu'elle est d'une essence supérieure aux autres animaux et à la nature dans son ensemble. Ce blocage de l'empathie, celui de la coupure épistémologique, l'amène à torturer la nature sans état d'âme, si on parle à même la branche sur laquelle elle est assise. D'où l'importance d'affûter notre connaissance de la nature, autant que celle des peuples qui vivent encore en harmonie avec elle. Le biomimétisme n'aura de réalité et d'expansion que dans cet écrin. Qui plus est, rendons-nous à l'évidence. Depuis le milieu du XXe siècle, les recherches et découvertes sur le code génétique établissent clairement que la vie est un seul et même phénomène, depuis l'amibe jusqu'à l'éléphant, autrement dit, le déploiement du potentiel de ce code dans un milieu biologique est constitué d'une même famille de molécules, depuis les êtres monocellulaires jusqu'aux plus complexes, jusqu'à l'homme. Alors pourquoi continuer à vouloir séparer et diviser ? Le biomimétisme est une formidable opportunité d'évolution à condition de transcender les conflits et de couper court aux oppositions stériles. Bâtissons des ponts au lieu de fossés. Nous n'avons pas le choix. L'idée qui consiste à dire qu'il n'est pas possible de conserver son niveau de vie et d'avoir un emploi tout en préservant la nature est une idée qui n'a plus lieu d'être. La nature est une alliée et pas une ennemie. Nous n'avons pas d'autre choix que celui de faire de la nature le maître et le moteur vertueux de l'économie. Mais quand je parle de moteur, je ne parle pas d'exploiter la nature jusqu'à la laisser exsangue, tout en perpétuant l'écocide et jusqu'à nous auto-supprimer nous-mêmes de l'équation. Non, je parle bien de biomimétisme. C'est-à-dire, comment peut-on observer la nature et apprendre d'elle en s'inspirant des formes, des matériaux, des stratégies, des écosystèmes, des processus naturels du vivant, pour trouver des solutions écologiques aux enjeux des transports, de l'énergie, de l'habitat, de la santé, etc. Comment finalement réintégrer le cycle du vivant, le cycle de la nature, en répliquant son génie dans tout ce que nous entreprenons? En 2016, j'ai d'ailleurs entrepris de créer une collection d'œuvres sur le biomimétisme pour rapprocher ce concept par l'art et l'empathie. Mon travail est encore loin d'être terminé car il est issu de longues observations de la nature. La première d'entre elles était une œuvre sur Barcelone, ville que je connais bien puisque je vis au nord de la Catalogne. Barcelone, invasion biomimétique, c'est son nom. Et dans cette œuvre, on peut y voir la Barcelone d'aujourd'hui mettant en scène sa tour Agbar, un phallus de verre de 145 mètres de hauteur, planté au milieu de la pollution, et symbole sans équivoque de notre époque testostéronée, qui se transforme peu à peu en la Barcelone de demain. Colorée, créative, biomimétique, subtile, innovante, sensitive, nourricière, circulaire, et forcément écologique. La ville biomimétique sera une ville en capacité de stocker l'énergie renouvelable, purifier l'air et l'eau, stocker le carbone, gérer et digérer les déchets de manière autonome et circulaire. Dans le développement durable en général, et le biomimétisme en particulier, la ville et ses citoyens sont toujours la meilleure échelle. Au-delà, c'est du placebo et de la poudre aux yeux. Mais bref, ce n'est pas de cette œuvre dont j'avais envie de vous parler. Dans ce podcast, j'avais vraiment envie de vous parler d'une des œuvres de cette série qui s'intitule Notre-Dame Nature. Si vous écoutez la radio des visionnaires depuis YouTube, vous pouvez voir l'œuvre dans le vidéo-podcast. Et si vous l'écoutez depuis une autre plateforme, je mettrai le lien dans les commentaires du podcast afin que vous puissiez la découvrir. Notre-Dame Nature. J'ai réalisé cette œuvre en janvier 2018. Vous verrez plus tard que la date a son importance. Elle représente une partie de la façade de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, dont le haut se transforme en arbre majestueux. J'ai réalisé ce travail entièrement de mémoire, sans photo ni croquis sur place. J'ai été happée par les lieux lors d'une visite impromptue, et depuis, je n'ai eu de cesse d'essayer d'en transmettre l'essence. D'ailleurs, pas la seule version de la cathédrale que j'ai réalisée. Il y a eu d'autres avant. Mais Notre-Dame Nature est la dernière. Voici son esprit. S'inspirer de la nature pour inventer demain. Toute beauté est fondée sur les lois de la nature. La puissance de l'architecture d'un édifice faite selon ses lois est dans l'émotion qu'elle crée bien plus que dans le service matériel qu'elle rend à l'homme. Lorsque l'âme s'éveille, c'est que la nature, dans ses plus subtils détails, est à l'œuvre. Cette nature est en nous, telle une forêt ancestrale. Aussi, la cathédrale de Notre-Dame de Paris transmet bien plus que son architecture. Elle transmet son archi-nature, tel un code universel et subtil. Lorsqu'on observe cette perfection, on ne peut que ployer le genou. On dirait que tout a été conçu d'origine pour créer l'harmonie dans une spirale dorée. Cette forme d'organisation aussi parfaite qu'inexpliquée m'interrogera toujours. Ce qui m'interroge aussi constamment, c'est pourquoi mettons-nous tant d'efforts à créer la disharmonie lorsque tout existe déjà. Près d'un an et demi après la création de cette œuvre, en avril 2019, Notre-Dame s'embrasa. Aussi, beaucoup seront tentés de donner un tout autre sens à cette toile, comme si elle était prémonitoire. Mais il n'en est rien. À force d'observer et de décrypter les rouages du monde avec autant d'empathie que de rationalité, sans jamais les opposer, on finit par voir les interactions subtiles entre les choses jusqu'à en faire partie intégralement, par biomimétisme. L'angle par lequel j'ai choisi de peindre Notre-Dame, vu d'en bas pour signifier notre petitesse, ainsi que l'arbre majestueux, mouvant et flamboyant couronnant l'édifice, ne sont pas là par hasard. C'est une façon de dire: rendons à la nature ce qu'elle incarne au plus haut degré. Rendons-lui toute sa lumière et désinstitutionnalisons le sacré. Le sacré est partout dans la nature et en chacun de nous. Rendons à la nature ce qui est la nature et tâchons au mieux de la mimer sans la détruire. Notre-Dame se transforme en arbre pour retrouver sa vraie nature par biomimétisme. Ce qui est doublement symbolique puisque, non visible par les visiteurs, la charpente de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, surnommée la forêt, faisait référence à son enchevêtrement de poutres en bois de chêne, chacune taillée dans un arbre différent. Elle était constituée de poutres vieilles de 8 siècles pour les plus anciennes. Une forêt ancestrale dont nous sommes. Le feu ne s'éteint pas, il change seulement de forme. Par son chemin à la fois souterrain et aérien, l'arbre flamboyant qui couronne l'édifice relie les deux mondes. Celui qui fut à celui qui devient, le monde caché à celui des apparences. À nous d'en transmettre la sève, tel l'arbre d'une archi-nature dans son architecture mémorielle. En tant qu'artiste, j'ai cette curieuse sensation parfois que l'art est un processus d'apprentissage où le professeur et l'élève sont dans le même individu. L'art, comme l'empathie d'ailleurs, est un chemin de connaissance qui révèle bien plus que l'on pourrait imaginer. Être artiste, c'est forcément, à mon sens en tout cas, mimer la nature, celle qui est visible à tous et celle qui est invisible. Eh bien, être scientifique, ingénieur ou chercheur, ce devrait être cela aussi. Il n'y a rien de laid dans la nature. Le laid est dans ce que nous sommes. Auguste Rodin disait « Ce qu'on nomme communément laideur dans la nature peut dans l'art devenir d'une grande beauté. » Qu'un artiste ou un écrivain s'empare de ses laideurs, instantanément, il les transfigure. D'un coup de baguette magique, il en fait de la beauté. C'est de l'alchimie, de la féerie. Dans l'art, est beau uniquement ce qui a du caractère. Le caractère, c'est la vérité intense d'un spectacle naturel quelconque, beau ou laid. C'est même ce qu'on pourrait appeler une vérité double. Car c'est celle du dedans, traduite par celle du dehors. Elle est dans l'art ce qui est faux, ce qui est artificiel, ce qui cherche à être joli ou beau au lieu d'être expressif. Elle est tout ce qui ment. Alors si j'ose un parallèle, le biomimétisme sera laid s'il est faux, trop artificiel, s'il cherche à plaire aux industriels passéistes ou aux politiciens animés par leur seule cupidité et ivresse du pouvoir, au lieu de remettre du sens dans la société, dans l'évolution. Le biomimétisme sera laid s'il ment, ou s'il fait la promesse absurde de réduire l'impact environnemental, par exemple. Ce serait tellement réducteur, c'est le cas de le dire. Le biomimétisme n'a de sens que s'il crée de la régénération. Il est trop tard pour réduire. À défaut, le biomimétisme pourrait bien être une nouvelle arnaque à grande échelle, un Eldorado hypothétique, voire une nouvelle pompe à fric pour chercheurs au mal d'égo. Notre Terre et sa biodiversité sont une leçon d'évolution et de résilience à ciel ouvert. Il ne s'agit pas de l'idéaliser, au même titre que nous idéalisons nos vies occidentalisées d'ailleurs. Il s'agit juste, elle et nous, de nous remettre à notre juste place. Nous avons tout à apprendre de l'observation de la nature. Nous ne sommes pas supérieurs, mais absolument dépendants d'elle. Préserver l'environnement comme autant d'îlots verts quand d'autres les brûlent tout à côté, ça n'a pas de sens. On oppose encore et encore les choses et les gens. Très hypocritement, on s'accommodera de dire qu'on fera moins mal avec une voiture moins polluante. Mais c'est toujours une voiture, n'est-ce pas? Je peux pointer les dérives du biomimétisme comme je peux aussi mettre tous mes espoirs en lui. Ce serait dommage de s'inspirer de la nature en continuant à la détruire. Il est temps d'entrer dans le positif et d'apprendre à faire du bien et du beau, au sens harmonieux du terme plus qu'esthétique, au lieu de se satisfaire de la médiocrité, du moins ou du moindre mal. Se demander plutôt chaque matin en se réveillant « Comment puis-je améliorer ma santé, mon niveau de vie et de connaissances, non pas en faisant moins mal, mais en faisant du bien à la nature, à soi et à l'autre ?» Passer de cette économie linéaire à l'économie circulaire, y compris dans le biomimétisme. Régénération. Ce devrait être le maître mot du biomimétisme. Alors, comment réconcilier les sciences et la nature, l'humanité et la biodiversité? Comment créer cette connexion? Avec le cœur. Oui, pas avec un intellect dépourvu d'empathie, mais avec le cœur. Quelque part, nous en avons tous marre de la peur et du catastrophisme. Se laisser abattre par la catastrophe, c'est ni plus ni moins qu'une justification toute faite pour ne rien faire. On n'a qu'à finalement se dire que tout le monde est fichu et qu'on peut rien y changer, au mieux par flémardise aiguë, au pire par manque d'empathie, comme tout bon bourreau qui s'ignore. Pourtant, si au contraire, tout est possible. Mais pour éviter la catastrophe, il nous faut pourtant la considérer comme certaine, pour avoir une chance qu'elle n'arrive pas. C'est le fameux catastrophisme éclairé dont parle Jean-Pierre Dupuis. Si l'on considère que ça va arriver, on met les outils en place pour que ça n'arrive pas, et donc, ça n'arrive pas. C'est tout le paradoxe. C'est lorsque l'impensable et l'impossible deviennent certains que commence la liberté, et avec elle, le pouvoir. La liberté et le pouvoir de créer son futur. Je crois qu'il est temps de créer du beau pour réapprendre à rêver, à s'inspirer, à explorer, expérimenter ensemble. Autrefois, il y avait les mythes pour inspirer les gens au fil du temps. Autrement dit, une fiction, certainement basée sur des faits réels ou une réalité possible. Eh bien, il est temps de recréer la fiction, et particulièrement, j'ai envie de dire, de la science-fiction, pour connecter les cœurs et changer l'écosystème. C'est cela, selon moi, l'enjeu majeur que nous aurons à relever en ce début du XXIe siècle. Connecter la tête au cœur et faire du cœur le moteur. Qui plus est, ma tête et mon cœur ne valent rien si je ne suis pas connectée aux autres. On a vu que ce que la seule tête aux commandes pouvait produire. Alors tentons autre chose. Créons un nouvel écosystème qui pourrait être inspirant pour tous, par biomimétisme. Jusqu'à présent, nous avons privilégié la seule et unique intelligence du cerveau soutenue par une raison inébranlable. Et si nous utilisions notre tête pour vivre avec le cœur? Le biomimétisme, avec toutes les promesses qu'il peut faire, n'apportera rien de bon à la vie, au vivant tout entier ou à l'humanité en particulier, si nous ne revalorisons pas notre intelligence du cœur. Dès qu'il s'agit d'économie, de politique ou de science, on ne reconnaît plus l'émotion ni le cœur comme un indicateur d'intelligence, voire on en fait des handicaps, se coupant du monde et de toute empathie avec un autre être vivant, qu'il soit humain, animal, végétal ou minéral. Et tant que nous séparerons le cœur et la tête, nous nous croirons supérieurs. Nous jouerons donc les bourreaux en plébiscitant les progrès d'une science sans conscience. C'est humainement insupportable. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, écrivait Rabelais à l'époque de la Renaissance, au XVIe siècle. Renaissance, voilà un autre mot qui a du sens. À se couper d'eux-mêmes, les scientifiques du vieux monde n'ont aucune place dans le biomimétisme. Car pour mimer la vie, encore faut-il la reconnaître en soi et autour de soi. Une nouvelle génération de scientifiques à l'œuvre est donc vitale dans l'équation. Si nous ne pensons pas nos blessures, nous demeurerons séparés de nous et du vivant tout entier, le meurtrissant davantage. Nous avons besoin de toutes les intelligences décloisonnées. Nous avons besoin de faire la paix entre toutes nos parties pour que le biomimétisme puisse avoir une signification dans les pas de l'évolution. Une signification dans la régénération du vivant et la renaissance de l'humanité. Je vous dis à bientôt sur la radio des visionnaires, les podcasts de ceux qui choisissent de donner un avenir à leur futur.